Bienvenue sur Gameblog.fr pour votre rendez-vous hebdomadaire avec les podcasts de la rédaction. Aujourd'hui, podcast numéro 65, toujours éternellement devant la table à repasser la plus incroyable d'Internet. À mes côtés, Julo, Angel, Rahan, Caf, pour cette semaine, revenir sur l'actualité du mois de juin. Alors certes, d'habitude, vous le savez, c'est le premier mercredi du mois. Et bien là, c'est le second mercredi du mois, tout simplement car la semaine dernière, nous faisions un podcast invité exceptionnel avec Florent Gorge, qui nous a narré, conté l'histoire de Nintendo, les origines de Nintendo. Et du coup, nous avons fait une petite entorse à la tradition. Et du coup, en bonus, nous allons vous livrer une rétrospective de l'actu du mois de juin, mais aussi de la première semaine du mois de juillet. C'est ça qui est beau. Comme ça, vous saurez encore plus de choses. C'est une sorte de bonus exclusif que nous vous livrons. Voilà, je vous sens super emballé. Alors messieurs, comme d'habitude, vous le savez, tous les samedis, le best-of sur Gameblog.fr vous permet de voter pour l'actualité chaude, celle qui vous a fait le plus vibrer chaque semaine sur Gameblog.fr. Et les news que vous avez mis sur le devant de la scène furent Itakagi qui claque la porte de Tecmo, on va revenir bien évidemment dessus, le podcast événement Kojima Shinkawa Kikuchi sur Gameblog.fr, et c'était nos invités exclusifs au début du mois de juin, Metal Gear Solid 4 qui propulse la PlayStation 3 au sommet des charts, nous allons revenir dessus et peut-être aussi tempérer un petit peu cette annonce, car on a vu qu'après une explosion, effectivement, il y a eu une légère une sorte d'érosion, on va dire. Ensuite, Diablo 3 annoncé en vidéo, c'était il y a quelques jours à peine, on va revenir dessus, il y a pas mal de choses à dire. Et puis cette semaine, la news qui vous a fait le plus kiffer, le plus tripper en tout cas, c'est Chrono Trigger qui revient, mais cette fois-ci sur DS, avec non pas un remake, mais plutôt un portage sur la portable de Nintendo. Alors bien évidemment, ça ce sont les 5 news phares que nous allons développer dans ce podcast, mais il y en a tant d'autres, comme par exemple l'annonce de PES 2009, annoncée en images avec quelques informations aussi, et là on entendra Angel nous en parler. Il y a aussi Nintendo qui prépare des surprises pour les core gamers, annoncé à l'E3, l'E3 qui se tiendra la semaine prochaine, on reviendra dessus en fin de podcast. Lemmy qui devrait débarquer sur Xbox 360, les employés de Tecmo qui se barrent tous les uns après les autres, Star Ocean 4 en exclu sur Xbox 360, ça vous a fait aussi beaucoup parler, quelques problèmes de mémoire sur Wii, des annonces fracassantes de monsieur Laurent Fischer, ainsi que pas mal d'autres annonces. On va développer tout ça dans l'heure qui suit. Messieurs, êtes-vous prêts?
Oui.
Complètement. Bon, il y a Julo qui est prêt. Du coup, Julo, je suis désolé. Hein.
Ah non,
mais c'est par toi que ça va commencer. On va commencer par toi. Et donc, on va faire ça dans l'ordre chronologique. La news qui vous a le plus marqué et qui est la plus ancienne, c'est monsieur Itakagi, responsable.
T'arrives
de...
pas à le dire. Hein.
Non, Itagaki.
Itagaki, oui. Je dis quoi? Itagaki?
Tu dis, ça dépend.
Itagaki. Bon, enfin, monsieur Itagaki, l'homme à la peau la plus incroyable de tous les temps, qui est donc responsable
c'est
des
chants, des Ninja Gaiden, on se moquait pas du physique,
des Dead or Alive, etc., qui a décidé de quitter en claquant la porte de Tecmo. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé?
Bien, une histoire de pognon, bien sûr.
Une histoire de pognon, ouais, et de divergence, je crois, avec son patron.
Je sais pas s'il y a des divergences avec son pognon, avec son patron. Mais sur
avec son pognon,
paye,
ouais.
C'est une histoire de prime. Il n'aurait pas touché par rapport à toutes les heures sup, machin. Mais et donc du coup, tous les employés ont suivi derrière, alors qu'au départ, il ne s'agissait que de lui.
Une grosse partie de l'équipe, pas tous les employés, une grosse partie de l'équipe de Dead or Alive, ce qui a flingué l'action de Tecmo au passage.
Ce qui a flingué effectivement l'action de Tecmo dès le lendemain. Mais ce qui est important, et c'est aussi pour ça qu'on revient dessus, c'est de voir à quel point Microsoft a réagi tout de suite. Parce qu'on sait que Itagaki est très proche de Microsoft. Il leur a fourni des jeux en exclusivité pour la première Xbox et la Xbox 360. Et que Microsoft s'est carrément fendu d'un remerciement général au travail de monsieur Itagaki. Donc visiblement, ça a des répercussions et on imagine aussi qu'on pourrait le voir peut-être arriver chez d'autres développeurs et peut-être pas forcément des Japonais, peut-être des Occidentaux qui seraient intéressés de le recruter malgré ses problèmes de peau.
Il va rester chez les Japonais, mais par contre avec quelle thune, telle est la question.
On sait que c'est un peu une star au Japon, en tout cas il se la joue très star.
Il est super chiant apparemment, ouais, faut être clair.
Il avait eu d'ailleurs des démêlés aussi avec la justice. Il y avait des problèmes de sévices sexuels.
Non, pas de sévices, du harcèlement sexuel au bureau. Mm-hmm. Non, en même temps, c'est des hôtesses japonaises. Hein. Demande à Julo, je suis sûr qu'il est du Japon.
Ah, moi, les hôtesses japonaises, je ne connais pas. Je suis désolé.
En tout cas,
il nie tout en bloc.
Voilà. Moi, le harcèlement sexuel, je connais.
En tout cas, il a une réputation très sulfureuse. Qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu? Est-ce que ça, vous pensez que ça va avoir un impact fort
de soleil.
En tout cas, pour Tecmo et pour la suite des grandes séries
Déjà eu,
que sont Dead or Alive et Ninja Gaiden, par exemple.
Bah, Tecmo, donc ça a déjà eu un impact, ne serait-ce que sur l'action, comme Kaf le disait. Et puis après, faut voir comment est-ce que ça va se régler aussi, parce que bon, ça se trouve, les choses vont rentrer dans l'ordre.
Peut-être qu'il va revenir au bercail avec une super prime. Un
gros chèque, au Japon, on sait que quand on fait ce genre d'annonce et qu'on claque la porte, a priori, il y a plus de chances qu'il
revienne. Là, c'est mort. Hein.
Mais quoi qu'il arrive, moi, je ne me fais pas particulièrement de soucis pour lui
pour la personne,
et pour ses équipes, parce que ses proches doivent faire partie d'ailleurs du wagon en question et ils seront récupérés d'une manière ou d'une autre. Mais ça dépend aussi peut-être du succès de Ninja Gaiden 2.
Est-ce qu'on peut imaginer la création d'une nouvelle entité comme on l'a vu pour des dissidents de Capcom qui avaient
super envisageable. Moi, il peut créer un studio avec
ça. C'est plus en plus,
surtout qu'il y a tous ces mecs là qui l'ont suivi, tous ces développeurs, donc voilà, c'est peut-être effectivement une piste.
Parce que ce que j'ai envie de dire, c'est que comme ils sont tous barrés dans le truc, j'ai l'impression que c'est déjà fait. Je sais pas, c'est le côté paranoïaque.
Bah, Angel, tu veux dire que les mecs ils se barrent pas sans avoir un minimum de garantie, quoi.
Ils sont pas comme nous, quoi, tu vois.
Non, mais enfin, voilà, quoi, tu vois, les mecs, ils sont combien à cette barrée? Enfin, ouais, tu vois, ça se compte par dizaines, quoi. Donc, ils vont pas y aller pour l'amour de l'art ou genre le respect du maître. Tu vois, au bout d'un moment, le pognon rentre en jeu.
Surtout celui-là.
D'accord, donc on pourrait s'attendre effectivement dans les mois à venir à une annonce.
Mais ça peut être même vachement bien parce que du coup, vu que les jeux, eux, restent la propriété de Tecmo. Mm-hmm. Donc les Ninja Gaiden, les Dead or Alive et toutes les licences développées par la Team Ninja sont la propriété de Tecmo. Si jamais ils refondent un studio, ils seront obligés de bosser sur des nouveaux trucs. Comme
Killing and Living.
Quoi, c'est une idée, Angel. Non, mais voilà, oui, effectivement, l'émergence
Il a fait un jeu de mots sur Dead or Alive.
D'accord.
Voilà, tout le monde l'avait compris chez eux. Donc oui, la création de nouvelles marques, de nouvelles licences, espérons aussi fortes que les Dead or Alive et les Ninja Gaiden. Ce serait une bonne chose, en tout cas c'est pour l'instant à peu près tout ce qu'on peut dire sur ce claquement de porte qui a été très retentissant, qui vous a fait particulièrement réagir. On ouvre la parenthèse Metal Gear pendant qu'Angel est en train de
s'étouffer,
tout simplement. Alors qu'il porte un magnifique t-shirt Sega en tête de mort, Sonic même. Un pirate Sonic, voilà. Exactement. C'est la classe. Parce qu'on sait que vous êtes très proche de la garde-robe d'Angel, ça vous intéresse. Il est habillé donc tout en noir. Comme d'hab. Donc on ouvre la parenthèse Metal Gear Solid 4 avec donc deux choses qui vous ont fait beaucoup réagir. Donc le podcast, on va pas revenir dessus bien évidemment, il reste toujours en écoute sur gameblog.fr. C'était un grand moment, hein. Nous ça nous a particulièrement fait plaisir de pouvoir vous offrir c'était une première pour gameblog.fr, la première interview. Et pas de n'importe qui, hein. Hideo Kojima, Yoji Shinkawa et
Yumi
Kikuchi. Donc la fine équipe de Metal Gear Solid 4, en exclusivité pour Gameblog.fr, qui a pas mal d'annonces en plus, c'était assez intéressant.
En même temps, il a juste fait l'intérim pendant que moi j'étais en vacances. Hein. Bon, ok.
Oh putain, merde. Je suis désolé, mais la merde.
À trois vannes pourries, Angel, tu sors.
Ah, c'est ça. Oui.
Vite, des vacances.
Tu sais, c'est comme à Wimbledon, il y a des challenges. T'en as le droit à 3 par 7. Au bout du 3ème, après tu fermes ta gueule.
Tu t'en vas.
Voilà. Mais alors, ce qui vous intéresse plus, bien évidemment, c'est Metal Gear Solid 4, qui a donc avait été annoncé comme un véritable booster pour les ventes de la PlayStation 3. Sony avait énormément misé aussi dessus, puisqu'on voit qu'il y avait eu...
Depuis l'annonce de la machine, c'était le titre fort.
Tout simplement,
gamer,
c'était le premier blockbuster éditeur tiers sur la PS3. Alors effectivement, départ flamboyant, mais après, Julo, c'est pas si évident que ça.
Alors, si tu t'intéresses effectivement aux ventes au Japon... Mm-hmm. Il y a eu un véritable effet Metal Gear qui a propulsé la PS3 sur le devant du podium,
pour la première semaine,
sur la première marche du podium. Ça s'est très nettement calmé la semaine suivante et encore plus sur la troisième, ce qui fait que ça ne sera a priori pas un million seller au Japon. Mais cela dit, on sait bien que
ça ne l'a jamais vraiment été, hein,
voilà,
au Japon.
Metal Gear, ça n'a jamais été un très grand succès au Japon, plutôt un succès mondial sur tous les épisodes qui est jusqu'à maintenant. Et là, justement, ça a peut-être eu plus de succès qu'on pouvait s'imaginer au Japon, vraiment. Hein,
D'autant plus que la console est beaucoup moins installée que ne l'était la PS1 à l'époque, puisqu'il arrivait en fin de vie de la PS1 et la PS2 qui avait connu un démarrage.
Donc avec une console moins installée, ils ont vendu plus que d'habitude, etc. Mmh. Donc on peut quand même parler d'un certain succès,
c'est un succès
au Japon.
Oui.
Mais est-ce qu'il n'a pas bénéficié aussi d'un certain manque de titres en parallèle?
Non, parce que les gens ont acheté des consoles.
Ouais, mais il y a vraiment des gens qui ont acheté des consoles pour lui.
Spécifiquement.
Quoi. Donc, au Japon, ce qui n'était pas évident, en fait. Enfin, pas évident à ce niveau-là.
Quoi.
Jouer,
quoi.
Voilà.
Enfin, pour remettre un petit peu en perspective, Metal Gear Solid 4, dans le monde, c'est 3 millions d'exemplaires mis sur le marché. 3 millions d'exemplaires qui, pour l'instant, n'ont pas encore trouvé tous intégralement preneurs. Mais enfin, on est à plus de 2 millions vendus, en tout cas, très clairement. Donc, c'est un très bon lancement de jeu. clairement. Maintenant, il va falloir voir comment il va s'installer sur la longueur. Est-ce que c'est un titre qui n'est pas, et on le sait, hein, on l'a vu et on vous l'a dit dans le test et dans différentes news, c'est clairement l'épisode le plus dédié aux fans de la série. Du coup, est-ce que ça le rend pas aussi un petit peu hermétique à d'autres? Et est-ce qu'il se vend pas uniquement par sa plastique et par toutes les cinématiques qu'on voit dans les
mais
boutiques?
C'est marrant parce que je suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce que alors moi personnellement j'ai pas eu encore l'occasion de le finir, et j'en suis
fort marié,
désolé, voilà. Mais quelque part tu dis ça et en même temps j'ai l'impression que c'est surtout les fans qui sont déçus, et que ceux qui n'ont pas forcément joué au 2 ou au 3 l'apprécient d'autant plus, quoi. Alors je sais pas.
Je dis juste un petit aparté, hein, mais quand on parle de déception, effectivement, il faut tempérer. Ça veut dire que
faut tempérer, bien sûr.
C'est une déception peut-être parce qu'on le considère plus comme un simple jeu, mais aussi par le message qu'il véhicule, et du coup, on est encore plus exigeant. Mais en termes d'expérience pure, ça reste quand même un jeu comme il y en a si peu aujourd'hui dans le milieu du jeu vidéo. La preuve, hein, encore aujourd'hui, dans les forums du monde entier et dont ceux de Gameblog.fr, vous êtes encore très 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 nombreux à débattre autour du jeu. Preuve que, en tout cas, c'est un jeu qui est marquant, très clairement. Après, on aime, on n'aime pas, on se fait son avis, mais c'est important pour la culture vidéoludique quelque part de pouvoir s'y essayer.
Certes.
Voilà. Généralement, là-dessus, il y a quelqu'un qui rebondit. Non, vous voulez pas.
Personne t'aide. Et maintenant, tu enchaînes, on te regarde.
Eh ben, vous allez voir, ça va être très facile. Donc, bon, on a vu qu'il a pas propulsé énormément la PS3. Il y a pas eu. Mais quelque part, qui peut propulser? Bah, tu vas voir. c'est l'enchaînement parce que c'est la suite.
Au Japon, un FF pourrait le faire vachement mieux.
Voilà, parce que on le voit clairement. GTA n'a pas propulsé la PS3. N'a pas non plus eu un effet mécanique de vente de Xbox 360.
Ouais, c'était un titre multi aussi.
Non mais voilà, GTA n'a pas vendu énormément de consoles, que ce soit de Xbox 360 ou de PS3. On se disait donc, est-ce que Metal Gear Solid 4 allait le faire? GT 5, Gran Turismo 5 Prologue, n'a pas non plus catapulté la PS3 au sommet des charts de manière durable, c'est-à-dire que sorti de l'épiphénomène qui est la semaine de lancement, ça n'a pas beaucoup joué. Alors, quelque part, quel est le titre qui va faire que enfin la PS3 va arriver à grignoter vraiment considérablement des parts de marché à Microsoft, qui reste second bien installé, et surtout à la Wii, qui reste largement devant, et on l'a vu,
la
qui
Wii,
a repris
c'est foutu,
très rapidement le devant.
Sur cette génération-là, pour la Wii, c'est foutu, personne ne la rattrapera.
Ce n'est pas ce que disent les analystes.
Oui. Nos amis, les analystes.
Exact.
Non mais attends, elle est tellement en avance, tellement en avance.
Oui, mais
non, mais attends, tu as cité quand même un titre très important, Final Fantasy XIII. On peut clairement dire, en tout cas au Japon, là beaucoup plus que pour Metal Gear, ça va très certainement propulser la console s'il sort un jour.
S'il est d'à mon niveau, ça risque de faire.
Alors là, justement, c'est intéressant. Hormis FF13 au Japon, qui, on va dire l'Occident, parce qu'on le voit maintenant, hein, le marché japonais est le plus petit marché du jeu vidéo, soyons très clairs, hein, c'est les États-Unis, l'Europe, le Japon.
L'inventaire des gros titres à venir,
Il y a le vrai Gran Turismo 5.
Ouais.
C'est pas 2008
début,
en tout cas.
Ouais, ça sera début 2009, enfin printemps 2009.
Il y a des rumeurs qui parlent de Noël, hein, quand même. Que justement Sony
de Noël
aimerait...
2008
ouais. Mais Final Sony Fantasy aimerait 13, mettre la pression pour que justement ils aient un gros
mais
titre.
Mais Sony ne met pas la pression sur.
Mais FF13,
sur c'est
Kazunori Yamauchi. C'est 2009 aussi.
Ah, c'est 2009,
c'est Kazunori Yamauchi qui met la pression.
Bon, Killzone est décalé à février 2009. Il y a Little Big Planet.
Ah, mais Little Big Planet.
Oui, mais alors Little Big Planet, alors ça on en avait déjà parlé, mais quelque part c'est un jeu qu'on adore.
Ah ouais,
vraiment.
Ça va être un coup de cœur, mais.
Fantastique. Ouais. Mais qui, quelque part. Va-t-il faire vendre des PS3 alors qu'il a l'air. Ça fait un peu erreur de casting, tu sais. On le verrait plus sur Wii ou quoi. Est-ce que.
Non, parce qu'il est joli.
Est-ce que ça va faire vendre des consoles?
Oh.
Je sais pas.
Moi, j'ai pas l'impression, en tout cas, clairement, à quelques mois maintenant du lancement, puisqu'on parle de la rentrée 2008. Très honnêtement, aller faire une enquête dans la rue ou ailleurs,
et puis même,
personne
y a
n'a entendu parler de Little Big
Resistance
Planet.
2, donc novembre, c'est ça? Octobre-novembre.
Ouais.
Ah bah non, Killzone 2 maintenant c'est 2009, c'est vrai.
Donc ça fait quand même un petit peu short, hein, pour une console qui devait vraiment connaître son gros démarrage en 2008. On est maintenant au mois de juillet, il n'y a toujours pas eu de séisme, on va dire, au niveau des ventes. Il serait peut-être temps de mettre un petit peu l'alarme au niveau de Sony quand même.
Je sais pas comment, hein. Enfin, on verra à l'E3.
Ouais, il y a certainement
espérant,
des annonces à l'E3,
voilà.
On en reparlera dans le podcast de la semaine prochaine.
Pour l'instant, même si c'est pas une exclusivité, moi je pense que Mirror's Edge va faire un petit peu de bruit et que Sony semble être plus prompte à le pousser que Microsoft. Donc ils peuvent peut-être réussir à s'adjoindre l'image de ce jeu-là avec leur machine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre
Enfin, on pensait que GTA justement allait être beaucoup plus connoté PS3 que Xbox 360 au final.
Ouais, mais
que...
ça c'était un préjugé qu'on avait avant que les campagnes de communication commencent et qui se sont faites sur les deux supports et même beaucoup sur Xbox.
Plus sur Xbox 360. C'est voilà. Très étonnant d'ailleurs quand même. Hein.
Mais pour l'instant, en tous les cas, les premiers à avoir communiqué sur Mirror's Edge, c'est Sony.
Ouais, clairement, la plus grosse cartouche qui reste, c'est quand même Final Fantasy XIII, quoi. D'ailleurs, il y a eu autre chose dans l'actu sur Final Fantasy XIII. Sur
Mais on y reviendra tout à l'heure. Ouais, effectivement, c'est Square qui réoriente son développement sur FF13 et non pas FF versus 13.
Parce qu'ils ils bossaient sur les deux en même temps et ils ont mis en pause Final Fantasy XIII versus 13
gars, si vous suivez...
pour pouvoir concentrer leurs efforts sur Final Fantasy XIII.
Ouais, mais non, en fait.
Sauf qu'il y a eu un démenti après, mais c'est bien de dire Gameblog.
non, mais d'accord, mais le démenti non, était quand même que globalement, quand il restait un peu de temps, il filait des coups de main plus à FF13.
Le démenti, c'était dire que surtout que Versus n'était pas arrêté.
Ah, mais non, mais c'est pas ce qu'on dit. Non, on dit pas arrêté. On dit ils se concentrent un peu plus sur FF13, ils accélèrent le développement d'FF13, ils arrêtent pas celui de Versus 13, ça, clairement.
Oui, enfin bref.
Ils le mettent un peu en sourdine.
Je pense que FF13 a besoin d'accélérer et sortir plus vite dans le planning que prévu. Quoi. S'ils peuvent gagner 2 ou 3 mois, je pense qu'ils ne sont pas contre. Et quand on connaît le nombre des équipes qui ont déjà plus de 200, s'ils peuvent en allouer 50% du côté d'FF13 normal, on va dire, ça leur sera plutôt de toute utilité. On clôt le chapitre PS3 pour parler maintenant du PC. Même si aujourd'hui est tombée une annonce, enfin hier, une annonce qui pourrait voir Diablo 3 arriver peut-être sur console. Justement, on parle de Diablo 3, annoncé en vidéo lors d'un gros événement Blizzard qui se tenait à Paris. Ouais. Non, et CAF, de quoi s'agit-il ? Parce que là, je ne vais pas pouvoir vous aider.
Le Blizzard Worldwide Invitational, donc événement 100% Blizzard, auquel ils ont présenté donc, pour la première fois StarCraft 2 en jouable, qui était disponible, enfin tous ceux qui avaient disons leur place pouvaient jouer sur place, et ils ont annoncé Diablo 3, mm-hmm. donc, qui était évidemment pressenti depuis 1000 ans.
Même s'ils l'annonçaient sous d'autres noms, ils disaient non, ce sera pas Diablo 3, ils ont vraiment beaucoup joué avec l'attente.
Ils disent pas ils disent rien, ils ne commentent pas. Et le nom en question auquel tu fais référence, c'est le projet Hydra.
Oui, c'est ça.
Ils n'ont toujours pas officiellement confirmé que le projet Hydra et Diablo 3 sont bien le même jeu. Mais
même
en l'occurrence.
Si, en conférence de presse, le mec il s'est retourné vers son pote, il a fait on peut le dire. Un pilote, tu as fait non.
Très bien. Parfait. Alors qu'est-ce qui est intéressant dans Diablo 3 ? En quoi c'est... Pourquoi ça suscite autant d'attentes alors que finalement beaucoup de personnes ont dit oh, ben ça n'a pas beaucoup changé ?
Parce que c'est Diablo 3.
Alors qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi Diablo ? Pour ceux qui ne connaissent pas bien la
série.
Des
gens ont perdu leur vie sur Diablo 2.
Voilà déjà.
Et inattendu.
Juste
préciser,
c'est quoi comme style de jeu ?
Alors, c'est un hack and slash, c'est même le titre de hack and slash le plus connu, quoi, enfin le plus définissant du genre. Mm-hmm. Donc, c'est une sorte de RPG en fait, très orienté action, en vue du dessus, dans lequel tu vas massacrer des tonnes et des tonnes de monstres. Et,
pour gagner des XP, des objets.
Voilà, et avec toute une partie de jeu en ligne qui était très forte sur Diablo 2, avec notamment un mode célèbre qui est le mode hardcore. Si je dis pas de
c'était
hardcore,
consiste en quoi ?
Si, c'est ça.
Où tu crevais en fait ton. Si ton personnage se faisait buter, bah, il était perdu, il fallait recommencer quoi.
À zéro.
Voilà.
D'où le hardcore.
Voilà, c'était un mode un peu.
Il y a des mecs qui ont dû pleurer quand même.
Il y a des mecs qui ont perdu leur level 99 et qui se sont suicidés.
Ah, je viens de jeter un froid là ! D'accord, mais on n'attend pas Diablo pour ça quand même. Qu'est-ce qu'il apporte au Diablo 3 ?
Bah, c'est une. De ce qu'ils ont présenté, ça ressemble plus à une réactualisation, si tu veux, du même concept, parce que beaucoup de gens
pensent
justement.
C'est pour ça que ça n'a pas l'air si passionnant que ça, quand même.
Bah si, justement. Moi, je pense que la plupart des gens qui attendent Diablo 3...
Ils attendent une réactualisation.
Oui.
Il est super beau, mais vraiment.
Oui, ouais, enfin, alors là, franchement, moi c'est... quand j'ai entendu ça.
Non, stop. Tu l'as pas vu.
Je l'ai vu. Mais moi, ça me. Alors, ça me laisse. J'arriverai pas à dire. C'est beau, quoi. C'est voilà. C'est
vu dessus. C'est pas de votre faute. C'est pas de goût, les mecs.
Non. Mais c'est peut-être effectivement notre côté typique.
Ça fait vieillot.
Typique ton consoleux, cette vue très haut comme ça, ces petits personnages.
Alors oui, il y a beaucoup de personnes à l'écran, mais enfin sorti de ça.
Ouais.
Bon, les consoleux qui disent ça fait très.
Non, mais défendez-vous.
On n'a pas besoin de défendre Diablo 3. Hein,
c'est des collègues, voilà, c'est des collègues à toi, ça
oui, ouais.
C'est les mecs qui ont bossé avec toi sur un magazine de console, c'est ça,
ça.
Ouais, ouais.
Putain, attends, je me casse.
Attends,
on écoute.
Très honnêtement, ça tue pas la gueule, quoi.
Ah, mais carrément.
Ah, c'est super joli, mais
en quoi sport, hein. En quoi de manière.
Dans le design, dans le design des strums, le design des pièces.
Tu parles pas technique, en fait.
C'est super fin.
Non, mais techniquement, Blizzard a toujours fait des jeux PC qui étaient très propres, mais qui étaient faits aussi pour tourner sur une majorité de PC. Donc,
effectivement. C'est pour ça qu'ils en vendent plein.
C'est pas un moteur à la Crysis machin.
Et est-ce que c'est pour ça aussi qu'il y a des rumeurs qui parleraient d'une adaptation console pour la première fois ?
Mais non, ça c'est complètement des conneries. Hein. Je
fort probablement. Ouais.
C'est non, mais c'est des super conneries.
Pourquoi ?
Alors moi, tout ce que j'ai lu et entendu, c'est que c'est théoriquement faisable.
C'est-à-dire mais voilà.
Tu vois, c'est en dehors de la théorie et de la pratique.
Et là, est-ce que je peux chier sur eux-mêmes sur un autre truc parce que
mais
c'est
vas-y,
les news,
fais-toi plaisir, j'adore entendre les gens chier.
Les news internet, les news internet là, se sont régalés là-dessus. Ouais. Et c'est une énorme connerie. C'est une news avec rien. C'est une fantastique news de rien.
Bah, parce... y a une citation à
non,
la base.
Non, oui, mais le mec, on lui a demandé texto, est-ce que c'est possible de le faire. Il a fait, ouais, c'est possible de le faire sur console.
Non, il a dit, c'était typiquement le genre de gameplay qui pouvait s'accorder à un
jeu console. Oui, super. Et ben le mec, ça tombe bien parce que si les gars avaient 2 onces de mémoire, 10 jours avant dans la conférence de presse, quand on lui a demandé sur quoi ça sentait, il a dit PC, Mac, et derrière, et le mec, ils ont fait là sur console.
Ils ont même
non.
pas, non, je crois pas qu'ils aient confirmé.
Mais c'est marrant parce qu'ils ont pas confirmé le Mac.
Si, si, bien sûr si, que si.
C'est marrant Julo. Parce que c'est un truc que je comprends absolument pas quand tu vois World of Warcraft. Comment ça se fait que ce jeu n'est jamais sorti sur console,
Non, mais World of Warcraft, justement, ça pose un vrai problème.
Warcraft, hein, c'est une vraie tannée, c'est, tu te rends pas compte.
Parce que.
Techniquement, de l'adapter.
Techniquement, pour le faire tourner, non. Mais pour y jouer. Oui,
parce qu'il faut une souris, un clavier, ouais. Point. Tu peux pas y jouer au pad.
Bah, super, ah les deux consoles qui pourraient le faire tourner, la Xbox 360 et la PS3, on branche un clavier en USB, une souris en USB, on n'en parle plus. Quoi.
Mais sauf qu'il y a un autre problème, c'est que tu as 512 mégas de RAM et qui tient pas dans 512
mégas de RAM. Non, et puis même, c'est vraiment pas du tout la même chose de jouer à un MMORPG derrière son PC que d'y jouer sur ton canapé.
Mais tu vois pas le texte.
Alors, c'est okay, là, c'est World of Warcraft, mais Diablo.
Tu vois pas le texte.
Diablo 3.
Diablo a une très grosse partie solo. Ouais. On a vu quand même pas mal de jeux typés PC, par exemple, pour prendre un autre parallèle avec un autre genre qui était assez réservé au PC, qui est le STR. Il y en a quand même de plus en plus qui débarquent un peu sur console. Tous les Command & Conquer 3, etc. sont adaptés sur console. Donc c'est
bon, ils sont refaits, les vrais
voilà,
bons STR.
Avec des nouvelles interfaces.
C'est pas les mêmes.
Ah bah putain, c'est... respire, mec, c'est bientôt les vacances.
Non, mais pourquoi ce serait obligatoirement une exclusivité, genre, et pourquoi ce serait visiblement
non, mais
le
déjà,
mal
traditionnellement,
que ça sur
console ? Traditionnellement, depuis que Blizzard est Blizzard, c'est-à-dire, enfin, ils sont devenus un développeur micro, enfin, pour dire PC et Mac, quoi. Donc, le seul projet récent console qui avait été fait était un projet dédié console, c'était StarCraft Ghost, qui a été une catastrophe pour Blizzard à tous les points de vue. Ça a duré pendant 1000 ans, tout ça pour finir par l'annuler. Enfin bref, ils s'en sont pas sortis. Ils ont voulu le sous-traiter. Tout ça, bref, ça n'a jamais marché. Maintenant, Diablo est aussi le premier, hein, le tout premier Diablo est aussi un des rares jeux Blizzard qui avait été adapté sur PS1. Donc, qui est un des jeux qui a fait la transition vers la console et qui était très jouable sur PS1. Par contre, ils n'ont pas choisi d'adapter le 2. Mais c'est techniquement possible de l'adapter. Après, il faut que l'interface suive. Et évidemment, si, sans souris et sans clavier.
Alors
si
pourquoi
est-ce
qu'on se
rend bien compte qu'on peut faire des millions quoi, avec ça tu vois.
Vraiment, je comprends pas.
Parce que, mais putain, mais c'est comme là. Ils sont bêtes.
Non, parce que si c'est une excuse de 512 mégas de RAM, comment te dire qu'il y a combien de jeux PC qui tournent sur une console et l'inverse
tourne bien. Tu dois repenser absolument toute l'interface en termes de gameplay.
C'est déjà arrivé quand même.
Tu dois repenser le fait que les mecs communiquent par texte énormément. Ouais. Le texte,
il y a une grande campagne solo.
Quand t'es ton canet.
Là, je parle de Diablo 3. Hein.
Ouais, bien sûr.
Même pour
mais
ça.
Même pour ça, si tu veux, le jeu, l'intérêt du jeu, c'est pas d'y jouer tout seul. C'est d'y jouer avec tes potes qui arrivent en drop-in dans ta partie pour t'aider, etc. Qui vont se barrer. C'est de pouvoir discuter avec eux.
Avec un casque micro, quoi.
Je dis ça. Mais casque micro, oui, mais il faut que toute l'interface. Après, tout est basé sur Battle.net au niveau du code réseau.
Mais qu'ils soient flemmards et qu'ils aient pas envie de le faire, ça, c'est autre chose. Mais je vois pas en quoi c'est impossible.
Mais non, ils s'en foutent.
On n'a jamais dit que c'était impossible de le faire, les gars.
Bah, le problème, c'est qu'ils sont multimilliardaires en le faisant sur PC et personne ne fait les jeux PC comme eux. Après, c'est un choix. Ils estiment que sur console, il y a des mecs qui font des très bons produits et qu'eux, ils n'ont absolument rien à battre d'aller dessus. Quoi.
Franchement, je suis même pas sûr que ce soit le bon public, d'où le théoriquement, oui, c'est possible, mais après. Pff.
Mais ouais, mais voilà, même la taille des icônes et tout, t'as une position. Enfin, là, c'est vraiment pas un style de jeu adapté à la console. Je veux dire, mettre un inventaire de genre de jeu à 4 mètres devant ton écran, tu vois rien. C'est pas fait de la même manière, vraiment. Tu ramasses des tonnes de trucs, c'est pas un jeu console où tu ramasses 4 objets, effectivement, de tu peux faire des icônes énormes. Tu passes ton temps à ramasser des trucs.
Bon. Tous les jeux à inventaire et tout ça qui étaient sur PC et qui ont été portés sur console, ils se sont cassés la gueule.
C'est de la merde.
Moi, je repense à Commando 2. Tu vois, pourtant, les mecs, ils ont essayé, mais finalement, Commando 2 sur console, bah, franchement, c'était de la chiotte. Quoi.
C'est vraiment
parce
pas adapté.
Bon, les gars, vous savez quoi, on va pas tourner en rond. Hein. Visiblement, en tout cas, ceux qui connaissent bien Diablo pensent qu'il n'a pas de légitimité sur console. Néanmoins, pour l'instant, moi, je suis vraiment un néophyte, un peu comme Julo, de Diablo. J'ai toujours pas compris quel était l'intérêt du jeu. Pourquoi Diablo 3 est si attendu ?
Parce que tu as pas joué.
À part que... Non, mais
si,
d'accord,
moi,
mais justement.
Moi, je comprends l'intérêt du jeu parce que j'ai joué à Phantasy Star Online et j'ai kiffé. Et quelque part, c'est un peu
la même
formule.
C'est les mêmes leviers.
Tu vas dans des donjons. Avec des potes,
exactement.
Tu charcles,
non, mais
tu récupères
mais ça,
des objets,
c'est le genre,
tu kiffes
mais
parce
ça, c'est
que tu
récupères
un super
objet. Qu'est-ce qu'apporte Diablo 3 ? Mais c'est ça que je veux savoir.
Bah, c'est le meilleur dans son genre. Diablo, c'est le meilleur.
Il y a quoi comme nouveauté ?
Mais rien, c'est le meilleur. C'est comme quel est le meilleur STR, c'est pareil. Quel est le meilleur MMO ? Bah voilà. Enfin, je veux dire, tu connais un jeu qui a été révolutionnaire.
D'accord. Mais par exemple, je pense à la campagne marketing du truc, etc. Ils vont pas dire c'est le meilleur. Point.
Déjà en termes de voilà, ils ont pas vraiment.
Ils vont mettre Diablo 3.
Ils vont faire une campagne marketing.
Ils vont rien mettre.
Voilà, Diablo 3 sort, ça suffit.
Je te jure vraiment, il y a une communauté de fans de jeux Blizzard.
Ah, mais c'est super. Mais s'ils veulent toucher des nouveaux joueurs. Ma question, c'est pas pour vous dire c'est pas bien ou quoi. C'est je connais pas ce jeu. Pour l'instant, j'ai aucune envie d'y intéresser. Ça tombe bien.
Tu joues pas sur PC. Qu'est-ce qu'ils s'en foutent.
C'est dingue cette histoire quand même d'être à ce point-là fermé. Moi, mon propos
n'est pas. C'est pas une question d'être fermé. C'est que tu ne rentres pas dans le public auquel il s'adresse.
D'accord. Donc, et donc forcément j'ai pas le droit de m'y intéresser.
Mais si t'as le droit, mais si tu veux t'y intéresser.
Visiblement
non,
puisque vous voulez pas me dire ce qui est intéressant.
Non mais par exemple, tu vois, qu'est-ce qui fait que Resident Evil est bien?
Ah bah ça,
que...
moi je peux te Resident Evil 4, je peux t'en parler pendant 4
heures.
Mon argumentaire ça va pas être Resident Evil parce que c'est le meilleur jeu survival horror. Non, je vais dire parce qu'il y a si,
il y a
qu'est-ce qu'il y a dans le trou.
Attends, j'ai une question moi pour toi d'abord. Avant toute chose, est-ce qu'il y a un seul jeu PC 100% typé PC pour lequel tu te sois passionné?
Bah oui, Half-Life, à la base je jouais pas au FPS, il y en avait très peu à l'époque sur console, j'ai kiffé, je m'y suis intéressé, j'ai même essayé des STR.
Tu as joué sur PC du coup?
Oui, j'ai joué sur PC.
Et je suis sûr qu'il peut énoncer les raisons pour lesquelles il a kiffé Half-Life.
Bien sûr, mais oui, et puis mon problème, c'est pas moi, le truc c'est que je me fais porte-parole des gens qui sont en train d'écouter ce podcast, qui ne connaissent peut-être pas Diablo, ou qui ont entendu parler de nom, qui sont pas typés jouer PC, mais qui entendent tellement de gens être passionnés. Il y a eu un buzz énorme autour de ça. Sauf que moi je ne sais pas pourquoi
on
c'est bien.
On va faire un résumé,
un résumé
de la formule Diablo, si tu veux. C'est donc explorer un monde qui est en grande partie aléatoire. Ça, c'est très important aussi. C'est-à-dire que deux parties ne se ressemblent pas.
Ah bah ça, c'est bien.
Et que le donjon dans lequel tu vas. C'est aussi l'intérêt quand tu joues bien en coop et qu'il y a des mecs qui viennent chez toi, c'est qu'ils ont, ils sont pas dans le même monde
ça, c'est
tout à fait que le tien.
Merci. Au bout d'un quart d'heure, on me dit un truc.
C'est comme le disaient eux-mêmes Blizzard pendant la présentation, le plus important c'est le loot, ce qu'ils appellent le loot, c'est-à-dire le butin en français, donc les objets que tu ramasses. Et eux aussi sont en grande partie aléatoires, mais avec un design de ouf, parce que c'est du Blizzard et qu'ils ont des designers.
Donc en gros, c'est d'avoir l'impression de vivre une aventure
unique. T'as pas deux personnages pareils, t'as pas deux personnages équipés pareils, et ton personnage a une durée de vie, tu peux continuer à le jouer.
Et ça, dans le 3, ils l'ont poussé, ils l'ont renforcé
Alors, ils ont c'est pas trop communiqué là-dessus, parce que le problème, c'est que ça a été juste, en fait, en gros, on monte le jeu visuellement la gueule que ça, les parties pris graphiques qu'on a pris, c'est-à-dire tout en 3D maintenant, etc. Mais on
ils
garde la même vue.
Ils ont une nouvelle classe aussi.
Parce qu'avant, c'était pas en
3D. Une nouvelle classe. Non, avant, c'était en 2D.
Ah bah voilà, mais il faut me dire tout ça.
Bah, le Diablo 2 est vieux maintenant. Hein. Ça fait
donc
quoi,
là, d'accord. Donc c'est l'apparition de la 3D.
Diablo 2, il pique les yeux même.
Ok. Ouais, et ils ont renforcé, je sais pas, peut-être un peu la scénarisation. Tu me parlais.
Alors oui, il y a aussi
un
indépendant du développement de ce nouveau Diablo-là. C'est aussi beaucoup d'événements qui seront eux aussi aléatoires. Alors ils ont pas trop parlé du système, comment ça va marcher, mais en gros, il va se passer pendant que tu te balades dans les donjons, tu vas pouvoir rencontrer des personnages, faire des sous-quêtes à l'intérieur, et ces événements-là seront eux aussi gérés aléatoirement. C'est-à-dire que deux joueurs, même s'ils progressent suivant en gros la même ligne, c'est-à-dire ils passent des niveaux, ils vont, disons, certains boss par lesquels ils vont tous passer, mais les événements et les quêtes qu'ils vont jouer ne seront pas les mêmes d'un joueur à l'autre.
En fait, tu as des événements complètement scriptés qui vont se déclencher aléatoirement. Alors là, effectivement, je ne sais pas comment ils vont gérer ça. Mais,
bon, le truc le plus simple, c'est d'avoir une base de données d'event très riche.
Non, mais parce que c'est lié au décor. Donc tu te balades dans un couloir, le mur, il y a un monstre qui va péter le mur, donc tu as un moteur physique, etc., ce qu'il n'y avait pas encore avant. Donc qui pète le mur, tu as un monstre qui sort, etc., et qui t'attaque. Et ce genre de truc, voilà, ça va être complètement aléatoire. C'est sûr, il y a des mecs qui vont passer dans le même couloir et qui ont la même gueule, mais il se passera rien.
C'est vachement intéressant.
Et,
d'accord.
Du coup, tous ces trucs-là, en revanche, si le mec vient jouer dans ta partie, évidemment, le mur va se péter.
Et alors, c'est ça que j'aimerais comprendre aussi. C'est donc apparemment, c'est en solo, mais dans ma campagne solo, je peux avoir des potes qui viennent me rendre.
Bah, c'est un petit peu comme un Halo ou un Gears of War, tu peux ouvrir ta partie à d'autres personnes.
Et du coup, il y a plus d'ennemis qui vont arriver pour que ce soit plus balancé. D'accord. Bon, donc en gros, Diablo 3, c'est une aventure.
Il y a plein de classes de personnages, ils en ont montré que deux. Donc il y en a une, c'est le barbare qui était connu, et une nouvelle qui ressemble pas mal au nécromancien de Diablo 2, et qui est le.
Chaman.
C'est le chaman ? Non, c'est pas un chaman, c'est un. Je sais plus comment ils l'ont
appelé. Ça va vous revenir tout à l'heure.
Mais
ils ont annoncé des nouvelles classes de personnages ?
Celle-ci, donc.
C'est ces deux-là. Mais qui ressemblent à d'autres, en fait.
C'est une classe à pète, c'est une classe qui balance des sorts, qui pourrisse ce qu'on appelle des dégâts sur le
familier,
temps.
Tout ça.
D'accord, et puis apparemment c'est une action qui est quand même assez frénétique.
Ça s'arrête jamais.
Ça s'arrête jamais, tu respires pas, c'est du hack and slash.
Et c'est une ambiance très sombre et très, enfin pas mature dans le sens du récit, mais c'est assez gore et assez noir et assez genre satanique.
Les monstres ils explosent dans des bruits dégueulasses.
D'accord. Bon,
en lâchant
puis il y a des musiques généralement.
Alors les musiques sont magnifiques. Le thème principal de Diablo à la guitare est extrêmement connu à cause de Diablo 2. Et il y a un autre truc aussi, c'est qu'ils ont l'air d'avoir beaucoup bossé. Ils vont certainement beaucoup bosser dessus à l'avenir d'ici à la sortie parce que ça ne sortira pas tout de suite du tout.
Oui, c'est ce que j'avais demandé. C'est comme à la bizarre.
Voilà, c'est Wailing Stone. Évidemment,
il y a toujours pas de date.
Les premières rumeurs parlent de fin 2009. Donc
fin 2009.
Ouais, ouais. Ah carrément.
Ah bah c'est des rumeurs. Bah
tu sais, on aura le temps de leur parler. Ça fait 10 minutes qu'on est dessus, voire plus un quart d'heure. On va en reparler. Il y a un dernier petit truc sur Diablo 3 ?
Non, mais.
Bah, je finis juste ce que je voulais dire. Ouais. C'est-à-dire que les monstres sont très intéressants. C'est un petit peu comme un Final Fantasy, par exemple, qui a un bestiaire assez
dingue,
hyper étoffé et avec des strums originaux. C'est un peu la même chose, mais en hack and slash. Il y a des strums qui ont des comportements particuliers.
Tu dois apprendre à les connaître pour
voilà,
mieux les battre.
Savoir quel pouvoir utiliser, quelles armes utiliser. Enfin bref, c'est très très riche dans ce
d'accord.
genre, vraiment.
Bon, et ben c'est tout ce qu'on pouvait dire sur Diablo 3. Ceux qui ne connaissaient pas du tout, ben peut-être que vous aurez vous intéressé et y connaître un petit peu plus. Remarquez, vous avez le temps, hein, vous avez plus d'un an. Ouais, Kaf, tu voulais dernière petite information.
Je ne sais pas si tu avais prévu de parler de Wrath of the Lich King.
Non, parce que déjà on fait d'abord toutes les news qui ont intéressé le plus nos internautes.
Mais là, on est toujours sur le World Wide,
toujours
en fait,
sur le World Wide,
sur le même événement.
Invitational.
Parce que en plus d'accord. de Diablo présenté, annoncé, oui. de StarCraft 2 en jouable, ils ont aussi montré la prochaine extension de World of Warcraft qui s'appelle d'accord. Wrath of the Lich King.
Et alors, on y apprend quoi?
Qui vont en vendre 2 millions en 24 heures.
Ouais. Pourquoi?
Comme l'autre. Bah parce qu'en fait, c'est la suite logique de Burning Crusade, donc qui était déjà la première extension de World of Warcraft, avec donc des jeux qui vont être en... Les joueurs vont passer du level 70 au level 80, ça va remettre à niveau les gens, ce qu'on appelle les casuals. Puisque du coup là, pendant une grande période, si tu veux, tous les gens qui étaient super équipés au level 70, bah, comme tu montes de niveau, là, tu vas récupérer des nouveaux objets, donc tout le monde va pouvoir récupérer des objets dans des quêtes, etc., et se remettre à peu près à niveau, et donc tu vas découvrir un nouveau continent, des nouveaux donjons, des nouvelles quêtes, des nouvelles classes de personnages. Il y en a une nouvelle classe de personnages, on n'avait jamais vu ça dans World of Warcraft.
C'est la première fois, c'est le Dark Knight.
Il apporte quoi?
C'est une classe qui a un couteau suisse, qui se joue complètement différemment des classes actuelles, enfin complètement différemment.
En mécanique.
Qui est en mécanique de jeu, qui est assez plus proche d'un rogue que d'un les mecs qui jouent un peu, enfin d'un voleur, si on le fait en français.
Non, ça ne fait pas un voleur en français, je ne sais plus comment ça s'appelle.
Un assassin ?
Je ne sais plus.
Oh, j'y joue qu'en anglais, donc c'est une catastrophe.
Bref. Excusez-nous.
Et le rôle de cette classe va être de faire des dégâts, mais aussi de pouvoir tanker. Tanker, c'est quand tu vas récupérer un monstre, tu te fais taper sur la gueule pendant que les autres te soignent. Ouais. Le but du jeu, c'est
une sorte d'anti-paladin, en fait, quelque part.
Ouais. Mais le but, c'est de pouvoir vraiment remplir un peu des rôles. En ce moment, dans World of Warcraft, tous les gens font des dégâts et il manque de temps. C'est un vrai problème dans le jeu quand tu fais des groupes.
Et alors, une nouvelle zone.
Alors,
à
tout
jeu,
un nouveau continent qui s'appelle Northrend, qui est très Northrend, qui est un continent glacial qui se situe au nord du monde d'Azeroth, qui est le monde donc, de World of Warcraft, et qui est un continent assez cher à l'histoire et au lore, comme on appelle ça, toute la mythologie de Warcraft. Qui était le continent dans lequel Arthas, qui est un gros personnage du monde de Warcraft, disparaissait et fusionnait avec le Lich King, bref.
Et devenait donc, the super bad guy.
Ah bah c'est pas le mec en bleu là, avec des cornes, je sais pas quoi qu'on voit.
Non, lui c'est le démon elfe.
Bon, c'est pas grave, ça peut revenir tout à l'heure.
Quand tu vois toute la mythologie qui est dans ce jeu, ça a l'air vraiment riche.
C'est gigantesque.
Et en même temps, tu regrettes que ce soit... qu'ils aient toujours pas trouvé de moyen de développer une vraie histoire, etc. Dans
ah bah il y a des bouquins, hein. Si tu t'es créé, il y a des bouquins, il y a un film qui va sortir.
Ouais, voilà. Quand t'es vraiment dans le trip, tu peux lire les bouquins, tu peux vraiment te faire un peu roleplay, t'imagines des trucs et tout, mais quelque part, dans le gameplay, on a toujours envie que ça évolue pour les MMO, quoi. Enfin, qu'il y a un truc...
Que ça soit plus riche au niveau narratif, quoi.
Oui, et puis que, voilà... qu'il y a un meilleur équilibre entre le MMO.
En fait,
MMO,
tu veux des éléments solo dans du MMO.
Voilà, c'est ça. Et mine de rien, j'ai l'impression qu'on n'y arrivera jamais parce que c'est impossible.
Oui, si, on y arrivera.
C'est, en termes de narration, on y arrivera. Mais
parce
dans,
que t'as un
dans,
monde
dans
riche
années,
et tout, c'est quand même trop dommage.
Des années. Mais il se passe des trucs. Ce qui est marrant, c'est que le mec qui a écrit tout ça, il est rentré pour faire des sprites sur un jeu console Mega Drive quand même à la base. Moi, je trouve ça pas mal comme évolution de carrière.
C'était à l'époque de Silicon and Synapse, avant ça s'appelle Blizzard.
Ouais, exact.
Alors, juste pour résumer, ça c'est prévu pour quand
Fin d'année, début 2009. Surtout, à mon avis, plutôt 2009.
On va dire début 2009. Hein. Et donc, pour résumer, donc c'est un nouveau continent, une nouvelle race, et
une nouvelle classe de personnages, et un upgrade.
Voilà, c'est-à-dire le cap maximal du level passe de 70 à 80.
Voilà.
Donc, avec aussi tout un truc de donjon. Et ils ont pas mal parlé du PVP aussi, donc le joueur contre joueur, qui est un des gros axes aussi de cette extension. Et ils ont vu un peu les choses en grand, là, quand même. Hein.
Bah, en fait, ils se sont aperçus que le PVP, c'est un peu la raison d'être du jeu actuellement. C'est-à-dire que les gens qui ont retourné le jeu, ils continuent de jouer pour le PVP. télé, en tout cas en grande partie.
Donc, de clan contre de clan, quoi.
Exactement, c'est un système d'arena qui est une sorte de coup, j'ai envie de, je compare ça à un mini Counter-Strike, mais c'est du 2 contre 2, du 3 contre 3, du 5 contre 5, etc.
En arène, donc.
En arène, dans des trucs fermés. Je crois que c'est un des trucs qui, moi, en termes de jeu d'action, me met le plus de stress, d'adrénaline de tous les trucs que je connais.
Parce que c'est quand même hyper péchu. Hein.
C'est hyper
péchu. Pour ceux qui ont une vieille image des MMO et qui n'ont pas joué à WoW,
le gameplay, les mecs qui te font le gameplay, il est facile, machin. Ils ont juste jamais joué en arena parce que putain, c'est juste. Il faut penser à un milliard de trucs, à des combinaisons de folie à faire pour justement empêcher l'équipe de déployer son jeu. C'est passionnant. Et derrière, tu as un vrai enjeu. C'est-à-dire que tu as des objets que tu peux acheter que si tu as un certain rating dans l'arena, etc. Donc ils ont vraiment fait une. Et c'est là où ils sont très forts. Et on parlait de Diablo 3 et c'est là où ils sont forts. C'est toujours cette course au loot, cette course au butin, les objets que tu veux. C'est la boîte la plus forte du monde pour arriver
quand
faire
tu rentres dedans.
Les gens qui ils font déployer des efforts hallucinants à leurs joueurs pour des trucs de 12 pixels. Quoi. Donc là-dessus, c'est les seuls à arriver à faire ça. Et on en reparlera du PVP parce que c'est juste énorme. Quoi.
Début 2009.
Ah là là.
Voilà, c'est un grand podcast. bon, alors, on revient à l'actualité qui vous a interpellé et pour laquelle vous l'avez voté. C'était le week-end dernier. C'était l'arrivée de Chrono Trigger sur Nintendo DS. Un vieux jeu de la Super Nintendo, fin de vie de la Super Nintendo, l'un des plus grands jeux de rôle japonais de Square, qui à l'époque s'appelait tout simplement Squaresoft hein, et pas Square Enix. On s'en rappelle un petit peu, Julo.
Qui avait connu une suite d'ailleurs sur PS1,
Chrono Cross, qui était exceptionnel aussi.
Qui était jamais sorti en France.
Non, mais bah, Chrono Trigger non plus.
Hein. Chrono Trigger non plus.
Ouais. C'est bien, je connais que les bandes son de ces jeux.
On rappelle rapidement un petit peu de quoi il s'agit. Ça arrivait juste après Final Fantasy VI dans la chronologie des gros RPG de Square.
Il y avait un design de Akira Toriyama.
Exactement.
Voilà, le dessinateur de Dragon Ball pour ceux qui ne connaissent pas.
Voilà. C'était vraiment passionnant. Une course dans le temps avec des retours dans le passé, dans le futur, des voyages temporels fréquents. C'était en plus, alors c'était vraiment intéressant. C'est un système de combat super intéressant qui mêlait à la fois un peu de temps réel, un peu de tour par tour, et surtout on restait sur la carte à l'endroit où on était exactement. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une map dédiée au combat comme dans tous les Final Fantasy.
C'était mais unique.
On avançait, ça se frisait. D'ailleurs, on voyait les ennemis, on pouvait les éviter. Ça, c'était assez rare aussi à l'époque. Et puis ça se frisait, puis on avait les
Square, mais les autres,
pour les jeux de Square, bien sûr. Ouais. Donc c'était vraiment un jeu à la fois novateur, super intéressant, avec un tout. Plusieurs fins aussi, l'un des premiers RPG, enfin pas l'un des premiers RPG, mais l'un de ceux en tout cas les plus marquants, qui a offert le plus de multi-ending possible. Donc voilà, donc un jeu qui a vraiment passionné les foules et qui vous fait clairement réagir, puisque depuis l'annonce, vous êtes ultra nombreux à vous rappeler à ces bons souvenirs. Donc il arrivera sur DS, même si pour l'instant, on n'a pas de date pour l'Europe. Vu la nouvelle politique de Square Enix, il y a quand même de grosses chances qu'il sorte chez nous.
Ça serait vraiment dommage qu'ils le fassent pas, mais même s'il sort qu'en américain, ça permettra déjà à pas mal de gens de. Mais
ils ont sorti tous leurs trucs là en Europe de toute façon.
Moi je suis assez confiant.
Enfin, tous les FF sont sortis.
Oui, c'est des FF qui n'étaient jamais sortis.
Les Dragon Quest, ils ont commencé
à
sortir
les
Dragon Quest.
Non, mais c'est la nouvelle politique, de toute façon, maintenant, tout va sortir chez nous. Et,
exactement.
Si on s'était douté de ça.
C'est tant mieux.
C'est tant mieux, c'est un peu tard, certes, mais en tout cas, ça fait plaisir. Puis la DS, c'est une console qui s'y prête bien. D'ailleurs, moi, à titre personnel, je suis plutôt heureux qu'ils gardent avec le look 2D d'origine.
Ah oui.
Donc, et pas une espèce de relifting 3D comme ils ont fait sur certaines Final Fantasy, qui apporte pas mal.
Ah ouais, non, mais c'est magnifique ce qu'ils ont fait sur Final Fantasy.
C'est pas mal, oui. Mais typiquement, là, il y a une telle richesse, parce que c'était vraiment la fin de vie de la Super Nintendo, donc c'est très très riche en termes de 2D, gameplay, d'animation et de petites expressions de visage. On n'est plus sur des personnages qui sautillent, mais il y a vraiment des petits des sourires, des petits regards qui sont vraiment très sympas, et ce sera agréable de les retrouver.
Et après, ils trouvent sur Diablo 3 très joli.
Ouais, mais enfin, c'était pas la même époque. Hein. Aujourd'hui, ils sortiraient premier jeu, je dirais pas que c'est jeu. Ah ben non, parce que là, c'est la fibre nostalgique. C'est pas pareil. C'est pas pareil.
Pour tous les joueurs de Diablo, c'est ça aussi. C'est la fibre nostalgique de Diablo.
Mais il fallait me le dire. Vous avez eu 20 minutes pour le dire, bordel. Il s'est pas sorti une fois. Faites chier, merde. Bon, alors, ça, c'était sur l'actu qui vous a marqué sur tout le mois de juin, puis la première semaine du mois de juillet. On va maintenant passer vite en revue d'autres news qui ont fait des gros scores dans les pages de Gameblog.fr. À commencer par une news sur Duke Nukem Forever. Bah oui, bah, il ressort du Diable Vauvert, ma foi, avec l'arrivée d'une nouvelle vidéo.
J'ai rien compris. De quoi tu parles ?
Duke Nukem Forever. Je parle couramment.
La news s'appelait Duke Nukem Forever en vidéo. Voilà. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? Une vidéo assez originale qui permettait pour la première fois de découvrir un peu de gameplay. Pour ceux qui ont eu l'occasion de la voir, Raon, est-ce que ça valait toute cette attente, franchement ?
J'ai un peu envie de te dire non, mais bon.
Bah oui, hein. Comme un peu tout le monde, je crois.
On l'a pas vu, on n'y a pas joué, on a juste vu un bout de vidéo, c'est réducteur.
Voilà, enfin tu t'attends, enfin franchement 10 ans, je crois que je...
Ah mais c'est un shoot'em, enfin je veux dire c'est un FPS à la base. Enfin je veux dire aucun jeu mérite qu'on l'attende 10 ans quand c'est un putain de FPS. Même un Final Fantasy,
ça dépend.
Fantasy,
si c'est vraiment pas, après c'est le personnage, c'est les vannes, c'est l'ambiance. Bon, s'ils ont vraiment réussi à garder le truc et à le transposer aujourd'hui, bon, on passera un bon moment, mais bon. Ouais. Je sais pas.
Si on a attendu 10 ans pour des nouvelles vannes sur les putes,
soyons très francs.
Ça va être dur quand même. Hein.
On va peut-être attendre 10 ans de plus pour en reparler, hein, parce qu'au rythme où vont les choses, c'est pas gagné-gagné. J'aimerais qu'on passe le micro à Angel, parce que Angel, on va parler avec toi de PES 2009 annoncé en images. Graphiquement, en tout cas, sur ce qu'on a pu voir, il y a l'air d'avoir un peu d'amélioration, peut-être pas franchement un fossé, mais quelques améliorations. Et surtout, eux, Konami annonce énormément de nouveautés, qu'ils ont pris conscience de la faiblesse de l'épisode 2008. Qu'est-ce qu'on doit en attendre ?
Je sais pas. Non, mais je sais pas, parce qu'après, de toute façon, tous les ans, à chaque communiqué de presse, c'était le nouveau PES, ça allait être la révolution, il allait avoir 12 000 nouveautés.
Mais pour la première fois, on sent vraiment dans leur communiqué, de la manière de l'amener, qu'ils ont pris conscience quand même que 2008, c'était une année... je dirais plus que de transition, une année un peu mollassonne.
Oui, mais tu sais, vouloir, c'est pas pouvoir.
C'est sûr.
Tu vois, et
c'est beau ce que tu dis.
Non, mais bon, et en plus, moi je l'ai pas ressenti comme ça, hein, ce communiqué de presse. Franchement, moi je l'ai pris comme toutes les autres années. À savoir, on va changer le monde du football, vous allez voir, c'est le meilleur jeu de foot de toute l'histoire. Ouais. Et finalement, on voit qu'ils se sont vraiment cassés la gueule. Enfin, ils se sont cassés la gueule en même temps qu'en plus que FIFA a fait un bon titre.
Ouais. Ouais. Donc, et puis on va en parler parce que FIFA 2009 a l'air d'être plutôt.
C'est ce que j'ai entendu dire.
Plutôt bon, hein. Ils se sont cassés la gueule au plus mauvais moment, en gros. Mm-hmm. C'est-à-dire parce que s'ils s'étaient cassés la gueule il y a 3 ans, au pire, on aurait eu deux mauvais jeux de foot. Allez, ils se sont cassés la gueule au moment où Electronic Arts a fait du bon boulot. Mm-hmm. Je pense que justement Electronic Arts va pas s'arrêter là, donc ils ont intérêt à fouetter les développeurs japonais.
Ouais. Julo, ce qui
serait intéressant, c'est de savoir comment ils ont un peu réparti les forces, parce que tout le monde a, et d'ailleurs Sibas l'avait avoué à demi-mot,
le
créateur de PES, c'est que le fait qu'ils soient passés en supra multiplateforme, c'est-à-dire c'est vraiment ils sont sortis sur toutes les consoles, sur
alors
les
qu'ils étaient vraiment
précédents,
dédiés aux
consoles Sony. Alors qu'avant ils étaient vraiment dédiés à la PS2
ou la PS1.
Voilà. Et là, d'un seul coup, évidemment, ça a divisé toutes leurs forces. Ils ont dû se répandre. Et puis, voilà, quoi, ils ont sorti un épisode qui était beaucoup moins travaillé et impressionnant dans le progrès que les autres.
Ah,
quoi.
Qui était même une régression
et
en
donc,
termes de gameplay.
Là, quelque part, PES, le nouveau PES 2009, il est annoncé pareil sur toutes les plateformes. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Est-ce qu'ils ont vraiment réussi à séparer les équipes, à vraiment concentrer leurs efforts sur une seule version, etc. C'est un peu ça la question aussi. Voilà.
Ouais, Angel ?
Alors bon, je suis tout d'accord avec Julo.
Oh, ça a eu du mal à sortir.
Je suis d'accord avec Julo. Je suis plutôt d'accord avec Julo. Et je rajouterais juste que le jeu n'était pas sorti, enfin le dernier PES n'était pas sorti, qu'il était déjà en train de dire qu'il y avait des modes de jeu qui étaient déjà prêts, mais qu'ils n'avaient pas pu inclure, etc. Donc en gros, vraiment, ce PES, c'était une version intermédiaire, quoi.
C'était une version de travail.
Et en plus ouais, c'était une de ces versions où il passait d'une génération à une autre. Alors on sait très bien, ça a fait pareil avec le premier PES sur PS2, il était moins bon que le dernier PES sur PS1.
Le second était excellent.
Et le second était excellent.
Voilà.
Mais il se concentrait à l'époque encore sur une seule plateforme. Voilà.
Peut-être qu'ils ont embauché plein de gens.
Et justement, là je reviens, alors à l'époque, le premier PES sur PS2 qui était vraiment pas terrible, maintenant avec le recul on peut le dire, et à l'époque on n'avait pas trop ressenti parce que...
Le premier PES d'ailleurs, parce que c'était le premier à s'appeler PES.
Ouais. Et à l'époque, on l'avait pas trop ressenti parce qu'en face, c'était bien pire.
Donc, ah ouais, ouais.
C'était vraiment bien pire. Donc, c'est peut-être pour ça. Et puis maintenant qu'ils sont le faux au cul, c'est peut-être la meilleure.
Ah bah, oui. Surtout que moi, j'ai eu des échos de FIFA pardon, 2009 avec des gens qui ont pu y jouer. Et apparemment, au-delà de la.
Pareil.
Des graphismes qui sont juste exceptionnels sur la précédente version de FIFA. Ils ont été légèrement améliorés, mais c'est pas trop là où je joue le fossé. Mais par contre, en termes de ressenti de jeu, apparemment de physique de la balle, de poids des joueurs, de
c'est
liberté
qu'ils ont travaillé,
et de jeu sans ballon, ce qui était l'une des vraies forces de PES et l'une des vraies faiblesses de FIFA, apparemment, Electronic Arts a encore progressé. Et là, on se rapproche vraiment d'un PES Electronic Artisé, sauf que ça a l'enveloppe d'un FIFA. Et l'enveloppe d'un FIFA, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que ça fait quand même des années que c'est clairement supérieur à PES. Donc attention.
Sauf
sur
les hymnes irlandais. Mais bon.
c'est possible. En tout cas, très clairement, ça va être une année vraiment charnière dans le duel.
Ça va être vraiment intéressant.
PES FIFA. Hein.
Ouais, de voir les deux versions arriver. Ouais,
là, on a vu le contender, le FIFA, qui était revenu très très proche avec Grignoté un petit peu, ouais, je sais plus comment le dire en français, le concurrent, avec Grip Jack et Jean-Claude Van Damme, et ben là, ça pourrait peut-être être un passage de témoin, on ne sait jamais, un Nadal Federer, un Federer Nadal, on ne sait pas.
D'ailleurs, il est important de signaler que dans les news du mois, il y a l'Euro qui se terminait avec une victoire brillantissime.
Alors, autre information.
De la sélection espagnole.
Tout à fait.
Parce, non, mais parce qu'on parle de foot.
La sélection.
Et de qualité. Voilà. Voilà, ouais.
Non, mais on parle de foot. Autant
on doublait ouais.
Du jeu bien plus beau
ouais,
que
mais
de
on
n'a
pas assez de batterie, là, faut y aller. Là.
Bon. Voilà, on continue. Information, rumeur ou pas, mais on a vu quelques images filtrées. Ça risque d'être plutôt s'avérer vrai. C'est l'apparition de ce qu'on va appeler des Mii pour l'instant, mais des petits avatars sur Xbox 360.
D'ailleurs, ça s'appelle. Avatars.
Les Avatars, exactement. Voilà. Microsoft qui aurait énormément d'annonces pour cette E3, donc la semaine prochaine. On parle d'un nouveau dashboard, donc nouvelle interface visuelle.
Alors, je pense que ça, c'est sûr.
Voilà, alors avec peut-être une apparition d'un dashboard en 3D, dans lequel on naviguerait avec peut-être une sorte de Wiimote, le projet Newton qui devrait être officialisé. C'est de la rumeur, qu'est-ce que vous en pensez ?
Le dashboard, c'est pas une rumeur. Mm-hmm. Le dashboard, c'est une rumeur aussi, oui. Enfin, le dashboard, c'est confirmé, il y aura une révision.
Mm-hmm. Et c'est confirmé.
Je sais pas si elle sera annoncée à cette
C'est confirmé.
Oui, oui, c'est sûr. Il y a des gens qui travaillent sur une révision.
D'accord.
Du dashboard. Par contre.
Les avatars, on les a vus aussi. Ouais, alors, confirmé,
fuite,
il y a une photo.
Il faut donner l'origine de cette fuite. C'est une fuite générale qui est partie d'une boîte de sondage, en fait, auprès des consommateurs. Une boîte qui s'occupe justement de réunir des consommateurs et de faire des focus group, en fait, pour savoir qu'est-ce qui est valable. Pas valable, comment orienter une campagne marketing et tout ça. Et cette boîte a comme client entre autres Microsoft, Activision, Disney. Et donc il y a tout un truc apparemment qui est sorti de leur serveur par une faille de sécurité, je sais pas trop comment. Et dans le tas, il y avait des visuels et des questionnaires qui concernaient donc ces espèces d'avatars, les Mii Microsoft. Il y avait d'autres choses aussi. Il y avait les nouveaux titres d'Activision qui ont été depuis confirmés, notamment Call of Duty.
Mais par contre, dans cette fuite, il n'y avait pas la Newton.
Il n'y avait pas la Newton.
Il n'y avait pas la Newton.
C'est
peut-être vraiment juste du pipeau intégral.
De la pure spéculation.
C'est même fort possible.
En même temps, faire ça parce que sans déconner, s'ils font ça, ils se grillent quoi.
Mais ça dépend comment ils le font.
S'ils sortent une manette qui ressemble à la Wiimote.
Bah oui.
Pourquoi?
Bah attends.
S'ils ont sorti une console de jeux
vidéo. On a commencé à faire les premières news là-dessous. Les commentaires, c'est tous les mêmes. Les commentaires de tous les gens qui s'y connaissent un peu, c'était bravo quoi. Enfin, tout ce que vous avez comme.
Mais le marché, c'est pas que des gens.
Ils ont tout faire une copie pure et simple.
Ils ont tout. C'est pas bien grave. Dans 2 ans, plus personne n'en parle. Et leur but, c'est pas toucher uniquement des gens qui connaissent aux jeux vidéo.
Je pense que l'image de marque de Microsoft, depuis le début, c'est hyper important pour eux. Non, sans déconner. Sur le marché.
Tu l'as vu la manette ? Elle te rappelle aucune manette ?
Non mais d'accord, mais là vraiment c'est trop quoi. S'ils font ça, c'est trop.
Bah, non, c'est s'inspirer de ce qui se fait de mieux. Mmh. En tout cas, de ce qui plaît aux gens.
Non, de ce qui a fait un super buzz, etc.
Bah oui. Bah je rappelle que en parlant de buzz, c'est pas Microsoft l'année dernière qui à l'E3 justement présenté un jeu de quiz avec des bumpers qui ressemblerait bien.
Ça s'appelait Sigit.
Mais justement,
qui rappelait buzz de la PlayStation.
Je suis pas sûr qu'ils aient envie de continuer à se faire critiquer là-dessus quoi.
Mais tu crois qu'ils en ont rien à foutre?
S'ils font des bons produits, ça va pas.
L'argent, Julo.
Mais non, mais la qualité. S'ils font des trucs de qualité avec des choses qui sont inspirées d'eux, personne ne les critiquera.
Le problème en fait, c'est de savoir. Est-ce qu'ils seront en mesure de proposer une Wiimote qui sera plus intéressante que
qu'il
y aura des choses novatrices?
Ils vont rajouter des boutons dessus et ils seront persuadés que voilà, non. Mais...
On verra bien peut-être. Mais
écoutez, dans une semaine et demie, vous en débattrez ici même dans ce podcast.
La Wiimote Xbox, moi je le dis, voilà,
je mets mes couilles sur la table.
Voilà, je prends les paris, elle n'existera jamais. Voilà, enfin sur cette génération.
Julo,
un
moi
an
je
de bière gratos.
Que tu vis dans le monde des bisounours. Et le monde des bisounours n'est pas le monde.
Eh ben écoutez, moi je pense clairement qu'ils vont en montrer une, et une bien jolie d'ailleurs. On verra.
En tout cas, s'ils montrent quelque chose, voilà, pour préciser.
Ah ben il y aura
pensée,
un truc gyroscopique.
Il y aura voilà, peut-être quelque chose de vaguement gyroscopique. Alors j'espère qu'ils vont pas nous refaire le coup du six-axis.
Ouais.
Non, mais ils vont pas nous refaire le coup du six-axis quand même. Parce que là, tout le monde a bien rigolé. Tout le monde a bien rigolé.
S'il vous plaît, Julo, on laisse Julo.
Tout le monde a bien rigolé quand Sony a annoncé le six-axis à l'E3, juste après l'annonce de la Wiimote.
Si ça marcherait bien, personne ne les critiquerait. On se serait marré.
Mais c'était vraiment. Voilà.
On s'est foutu de leur gueule parce que ça marche pas.
Parce que c'est mal intégré.
Non, on savait pas que ça marchait pas. On s'est foutu de leur gueule parce qu'ils ont annoncé un truc vite fait parce que Nintendo avait annoncé.
Et c'est parce que ça marche pas. Maintenant, si c'est bien réfléchi, etc., qu'est-ce que j'en ai à foutre que Nintendo l'ait fait avant?
Tu sais, les gens, ils gueulent pendant deux semaines.
Non, mais le vrai problème de tout ça, à mon avis, c'est que le vrai succès de la Wiimote, c'est qu'il y en a une dans toutes les boîtes de Wii et que sur Xbox, ils sont confrontés à un autre problème.
Ça sera un accessoire.
Ça tombera dans
ça sera jamais la manette.
Ça n'a pas empêché Activision de vendre des guitares électriques et machin et tout. Ça sera vendu avec un jeu, donc on ne sait pas. Ils ont un pack complet.
Et puis le prochain Call of Duty ou autre avec donc des graphismes HD next gen, ce que la Wii pourra jamais nous offrir malheureusement, en tout cas sur cette génération.
Alors ça, ouais, avec
un équivalent de la Wiimote, moi ça me ferait vachement kiffer. Hein.
Ouais. Ouais.
Le meilleur des deux mondes, hein, quelque part, j'ai
parce
envie de dire.
On a beau dire, je sais pas si vous avez tous joué à Metroid. Metroid, franchement, au niveau gameplay, c'était génial.
Bah voilà, j'ai adoré. Donc que tu boostes les graphismes,
ouvrir les portes en bougeant la poignée.
Ce serait encore mieux. Ok, ça c'est ce qu'on pouvait dire sur Microsoft. En tout cas, bah voilà, les paris sont ouverts. Puis vous verrez si Julo devra baisser quelque chose ou pas la semaine prochaine. Je serai pas là malheureusement pour le voir, mais ça me ferait marrer.
On verra les photos.
Exactement, je compte bien. On enchaîne, on est bientôt à la fin de ce podcast. Nintendo, justement, toujours le 3, on prépare le 3 à une semaine, qui annonce des surprises pour les core gamers. Alors là, Julo,
alors voilà,
bisounours ouais. Ou pas?
Ah oui, non, mais
je lance à fond.
Non, non, mais alors je pense qu'il va y avoir une peut-être deux, plus de belles surprises.
Mais tu penses à quoi alors? Quelle alors, voilà. F-Zero
voilà, voilà. Parce que moi, j'ai mon idée sur
moi
le
j'ai mon idée.
F-Zero.
Moi, c'est F-Zero.
Ouais, c'est F-Zero. Ouais.
Alors, franchement, s'ils font F-Zero, je suis aux anges. Il y a ça, il y a Star Fox qui n'a pas encore été fait.
C'est vrai.
Ah, ouais. Star Fox, un vrai Star Fox, un pas Star Fox Adventure et compagnie.
Tu veux dire avec un curseur sur l'écran qu'on agite avec la Wiimote, oui. Ok.
Ouais, ou une Wiimote comme il y avait dans les toutes premières présentations de la Wiimote où tu prends. Alors, ça, justement, c'est mon troisième jeu, Pilot Wings. Mmh. Alors, je vois bien Pilot Wings. Voilà.
Oui, mais ça, c'est pas assez hardcore gamer.
C'est pas assez hardcore gamer.
Non, mais non, c'est pas ça qui. Non, tu feras pas kiffer des millions de core gamers avec
Pilot Wings. C'est sûr.
Alors que F-Zero, il va y avoir de l'érection.
F-Zero, moi je deviens ouf. Franchement.
Je vous rappelle que quand même, autour de cette table à repasser, il y a
un nouveau Zelda.
Un nouveau Zelda.
Moi, je pense que pour moi, ils vont clouer le bec de tout le monde en sortant un truc super original, genre Mario Party.
Mario Party 9.
Ah ouais, et là, tout le monde sera de la base.
Cela dit, c'est possible qu'il y ait Mario Party 9 à l'E3.
Non mais F-Zero, peut-être qu'on aura plus besoin de s'envoyer des photos de nos scores sur Game Boy Advance.
Non mais
F-Zero, les gars.
Mais F-Zero, ça serait génial.
Je voulais juste dire que toi et moi on avait le high score de F-Zero sur GBA.
Ah oui c'est vrai. Ah c'était des bien bonnes parties.
Est-ce que vous avez trouvé le shortcut?
On avait trouvé le raccourci ultime.
Et après on l'a eu.
Que nous n'avions partagé avec personne.
Parce que vous êtes des grosses putes.
Voilà. Ok, donc on a vu Pilot Wings, F-Zero, Zelda.
Zelda, franchement.
Ah mais Zelda pour une sortie 2009 ou même 2010, mais un premier petit trailer, genre un petit clin d'œil de Link ou etc.
À la Blizzard.
Parce que l'autre en fait finalement c'était une version GameCube. Et qu'à mon avis, ils ont commencé depuis, à mon avis, bien 2 ans sur un nouveau Zelda, qu'ils l'ont bien avancé.
Mais j'espère
qu'il y aura
pas...
depuis
peut-être
la base.
Les deux. Attends, peut-être les deux, parce qu'ils ont dit c'est quand même dans leur déclaration.
Pluriel, hein.
C'est au pluriel.
Ouais, bien sûr.
Ouais. Donc il va y avoir plusieurs.
Mais je pense
surtout que s'ils montrent un Zelda, effectivement, ça sera un petit clin d'œil, un petit quelque chose, et il n'y aura rien de concret.
Voilà,
il faut quand même un truc concret, et là, un petit F-Zero, un petit Star Fox.
Exactement. Non, mais clairement.
Pardon.
Non, mais je disais juste que l'année dernière, c'était vraiment un E3 pour Nintendo très casual. Et que là, il leur faut un E3 plus balancé. Ils se rendent bien compte quand même.
On va sûrement revoir aussi Wii Music.
Animal
très, très certainement.
Crossing. Ouais. Voilà, je vais l'annoncer. Il y aura Animal Crossing, voilà. C'est évident.
Et Angel a raison. Raon aussi, je vois très bien, hein, pour les casuals, du Wii Music, je sais pas quoi, du Animal Crossing qui finalement est à la fois core gamer et à la fois casual. Et un petit truc, alors peut-être F-Zero, peut-être Zelda, peut-être les deux, peut-être aucun des deux. On verra. La surprise, la semaine prochaine. Kaf, tu voulais ajouter un truc?
Ils vont pouvoir ressortir leur trailer de Zelda en 3D qui est jamais sorti, qu'ils avaient montré.
Mais tu sais quoi? Mais alors, je vous assure, revoyez-le aujourd'hui. Il est moins beau que ce qui est sorti.
C'est vrai.
Donc, ils ont
ça m'avait fait marrer parce que.
Et puis ça, on l'a eu.
Ils l'ont enterré. Ils l'ont enterré, puis ils ont fait ouh, pardon.
Exactement. Mais il était pas très beau en fait. Avec le recul, non, c'est étonnant. Hein.
À l'époque, on l'avait trippé.
Ah oui.
C'est fou quand même. Hein.
Oh là là, on était dans la salle au moment où ils ont passé le truc avec Miyamoto sur la scène et tous les connards derrière qui gueulaient comme des porcs.
Autre truc. Est-ce que vous pensez que c'est l'E3 pour. On reste avec Nintendo. Ils vont annoncer la sortie d'un petit accessoire, d'un petit disque dur compatible ou quelque chose comme ça.
Ah, mais là, il va falloir.
Pour répondre à Laurent Fischer qui s'est fait vraiment taper sur les doigts par Nintendo Japon suite à ces annonces, on les rappelle.
Tu veux dire, hein. Laurent Wattels Fischer.
Wattels Fischer, exactement.
Alors, qui est
responsable de Nintendo Europe et qui a annoncé suite au tollé général qu'il n'y avait pas assez
de place. On
lui
avait posé la question sur ce problème de mémoire de la Wii, parce que quand même il y a les WiiWare qui sortent et en gros t'en mets 3 et encore plus. Si tu prends les 3 bons, tu peux les caser dans ta console, après c'est fini, ça on en avait déjà parlé. Question à laquelle il répond monsieur Laurent Fischer, que ça ne concerne que les otaku ou les geeks. Voilà, bon, moi je veux bien être un geek ou un otaku, mais moi j'ai envie
il s'était excusé derrière
parce qu'il s'est très certainement fait taper sur les doigts par Nintendo Japon.
Non,
qui
je te le confirme
de son côté. Nintendo Japon veut absolument communiquer sur le fait que on n'oublie pas les core gamers. On a un nouveau public, mais on n'oublie pas l'ancien. On va vous proposer.
Oui, mais enfin, s'il lui avait pas dit qu'à l'E3, ils allaient montrer leur disque dur. Ouh, pardon. Parce que je vous assure qu'il y a un accessoire qui sort.
Ah, je sais pas si c'est un disque dur.
C'est évident.
Mais ne serait-ce qu'une update software pour proposer de gérer en fait
non mais là il y a un
gérer la carte mémoire
comme la fois s'il vous plaît
de gérer la carte mémoire comme une comme une mémoire supplémentaire au disque dur quoi.
Non mais il y a un problème de sécurité avec ça pour eux parce que ça veut dire que tu peux exécuter du code sur un truc qui est pas la console.
D'où je rappelle quand même que cette console est prévue de base avec des ports USB qui aujourd'hui ne servent à rien.
Alors moi je vote et je dis il a raison. Non, mais,
mais je dis surtout que avant de sortir quoi que ce soit, faut qu'il fasse un OS qui rame pas parce que j'en ai ras-le-bol. Moi, des WiiWare, j'en achèterais bien, mais chez moi, ça met 2 ans.
Ah, tu veux dire les téléchargements et tout ça ?
Tout est super lent. Putain, tu lances un truc, c'est lent.
Moi, j'ai découvert qu'avec ma liaison Wi-Fi, si je l'approchais ma console de 10 cm plus loupe, et ben ça marchait vachement mieux.
Oui, non, mais parce que
ça se joue à 10 cm.
Le Wi-Fi de la Wii est pérave.
Ah, ça c'est.
Voilà, c'est
pas,
dit.
C'est pas une foudre de guerre. On clôt le dossier c'est Nintendo. On clôt le dossier Nintendo avec quelque chose aussi qui a fait beaucoup parler, c'est Star Ocean 4 en exclu sur Xbox 360. Ça, c'est vraiment une très grosse annonce
ça, c'est important,
pour les core gamers parce que c'est un jeu Square Enix, c'est un jeu de rôle. Et
c'est
japonais et ce sera exclusif à une console américaine.
Sur une grosse série, voilà. Enfin bon, c'est pas Final Fantasy, mais ça reste une série importante
du
RPG japonais.
Ils n'ont pas parlé en même temps très clairement d'exclusivité. Ils ne l'ont pas dit.
Ah bah quand même.
Ils n'ont pas dit exclusivité, ça a été présenté donc à un event Microsoft, etc. Donc, tu sens quelque part qu'ils se gardent la possibilité de voilà, le faire sur PS3. Ils sont, comme tous les éditeurs japonais maintenant, conscients que le marché mondial leur permettra de toute façon de rentabiliser le jeu, etc. Mais quand même,
en fait, ça doit être comme... comment il s'appelle cet autre RPG qui est sorti plus tard sur PS3
Eternal Sonata.
Ah, Eternal Sonata.
Eternal Sonata, voilà.
Voilà.
Ça peut être quelque chose comme ça.
Ça peut être quelque chose comme ça. Et quelque part, sur la génération d'avant, c'était un peu pareil avec Metal Gear qui est sorti finalement sur Xbox. Enfin, voilà. C'est pas. De toute façon,
ça fait des
années qu'on dit les exclusivités, ça veut plus dire grand chose, quoi.
Malheureusement.
Non, malheureusement, ouais, j'aurais envie de
dire. Mais cela dit, c'est quand même un gros coup pour Microsoft.
Bon, mais arrêtez de dire ça, là, avec vos.
Non,
trucs du bah
non.
Mieux
non, 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 moi, je pense
c'est pas une.
On s'en fout des
exclusivités.
Ah, si,
bah,
si, moi, je pense que.
Moi, je m'en fous pas.
Bah, moi, il y a déjà l'attachement à la marque, mais surtout, il y a un problème d'optimisation à chaque fois.
Bah, clairement.
Parce que les trucs sont mal foutus à chaque fois, quoi, parce que les deux consoles marchent pas du tout pareil, ça oblige à des compromis.
Est-ce qu'on a déjà fait un podcast sur la console unique ?
Non, on a fait le multi-support. On a fait.
Ouais. Tu fais pas mal marché d'ailleurs.
Oui, très bien.
Donc on pourrait peut-être y revenir. Hein. C'est une idée. Peut-être, une idée.
Peut-être après le 3. Hein, on verra.
Voilà. Bon, mesdames et messieurs, la semaine prochaine, on le disait juste au titre E3. Ce sera donc un podcast dédié à la grande cérémonie du jeu vidéo qui se passera à Los Angeles.
Qui n'est plus si grande que ça.
Ah non, qui n'est plus si grande, qui n'est plus si brillante, qui n'est plus si bling-bling. Mais enfin, en tout cas, cette édition, contrairement à l'année dernière, risque d'être un tout petit peu plus riche en annonces. Chacun, en tout cas, des trois acteurs a des choses à dire, a des choses à prouver. Sony risque de dire des choses, en tout cas. Quelque part, on le souhaite, hein, ce serait vraiment important. Microsoft risque d'arriver, comme on l'a énoncé dans ce podcast, avec pas mal d'annonces. Et
il y aura
Nintendo,
du Gears of War 2 déjà.
Gears of War 2, effectivement.
J'aimerais bien revoir Alan Wake, moi. Putain, ça fait 1000 ans qu'on a
Alan Wake. Alan Wake, vraiment, j'aimerais bien le voir aussi.
Tiens, bah justement, tour rapide, juste de pré-E3. Qu'est-ce que vous attendez un petit peu de cet événement, vous ?
Bah, Alan Wake. Voilà. Moi, j'aimerais bien revoir Alan Wake.
Ouais. Julo ?
Et bah, on en parlait tout à l'heure. Moi, je suis très impatient de voir le jeu Core Gamer Nintendo. Quoi. Mm-hmm.
Le ou les jeux, Angel ?
Ouais, du soleil et des vacances.
Très bien. Lucas ?
Un bon MMO, tiens, mais je sais pas lequel.
Bah moi, ce sera très simple. Et à mon avis, fort possible qu'il le montre. C'est le prochain jeu de Fumito Ueda
sur
de chez Sony.
Alors,
Pourquoi
sait que ça
fait dire ça ?
Parce que ça fait un an et demi qu'il travaille dessus. Et que rien que pour faire plaisir aux gamers, justement, et ouvrir un peu le public, un trailer. Voilà. Non, mais clairement, il sera pas jouable. Mais il y aura sûrement By the Team of Ico Shadow of the Colossus pour leur faire un truc un peu hypé, pour relancer un peu de buzz autour de leur machine. Sortie 2009. Voilà.
Alors,
et puis, en fait, c'est décembre 2009. Mais on verra quelques images.
Si effectivement il y a ça, ça passe même certainement
devant le nouveau jeu de la Team Ico.
On est tous d'accord là-dessus.
J'y avais pas pensé, mais je suis d'accord avec Serge.
Voilà.
T'as pas de micro, Angel, on t'entend pas.
Bon bah voilà, c'est un peu tout ce qu'on pouvait dire pour ce tour d'actualité du mois de juin. Vous l'avez vu qui était quand même assez riche et bien évidemment il y a beaucoup d'autres choses qui sont passées. Il y a eu ces rumeurs de PlayStation Phone avec des images. Moi perso j'y crois, quelle échéance on verra. Il y a eu le rachat de EA Tech 2 qui se prolonge, on n'arrive plus à en sortir. Sony qui annonce quand même 3 milliards de pertes pour l'activité jeux vidéo, ça commence à faire beaucoup.
Oh, ils sont encore loin de Microsoft.
Ils sont loin de Microsoft, mais enfin bon ça fait mal quand même parce que leur activité est concentrée quand même beaucoup. beaucoup. L'arrivée potentielle, mais ça c'est une rumeur, hein, des consoles compatibles Xbox 360, ça vous avait fait beaucoup réagir aussi. Alors peut-être que Microsoft va en parler ou pas. S'ils n'en parlent pas, ça, c'est qu'a priori ça n'arrivera pas.
Il y a de nombreuses années avec
la 3DO.
Avec la 3DO, effectivement.
Avec le succès qu'on le connaît.
Il y avait aussi des Mega Drive avec le.
Il y a eu une GameCube de Matsushita.
Une GameCube de Matsushita qui était lecteur de DVD.
La Q.
Effectivement. Qui avait la super classe en plus.
C'est vrai.
Donc bon, pourquoi pas, on en saura un petit peu plus. Et aussi, grosse annonce, hein, pendant ce mois de juin, c'est Sony qui arrêtait The Getaway et 8 Days.
Youhou! Voilà. Champagne!
Great news!
Bah, sans moi, mais sans champagne! 8 Days, ça se lançait pas trop mal. Bon, non.
The Getaway.
Donc voilà, c'était un petit peu tout ce qu'on pouvait dire. Tiens, Tech2, je reviens dessus. Ubisoft qui s'était montré aussi intéressé peut-être pour prendre des participations chez Tech2. Décidément, la guerre Electronic Arts, Ubi, en tout cas, les deux, ils se suivent de près. Hein. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire. Moi, c'était mon dernier podcast de la saison. Voilà, la semaine prochaine, je serai malheureusement
viré.
Pas parmi vous. Voilà, c'est là. Donc exclusivité.
Tu pars chez les champions d'Europe, c'est ça?
Non, je pars loin. Je peux pas dire où. C'est
ça.
C'est possible.
Ah ouais, chez les
donc la semaine prochaine, un podcast sans table à repasser, mais avec tout le monde, sauf moi. Hein. Voilà. Et on parlera donc, vous parlerez donc de l'E3. Ça me fait un peu chier de rater ce podcast. J'aurais bien kiffé.
On fera un récap.
On peut faire ça par l'internet.
Envoyez-moi des cartes postales. Je vous aime d'amour et d'eau fraîche. Oui. Et puis juste pour vous dire que probablement le podcast d'ailleurs E3 ne sera probablement pas le mercredi, car vous l'avez bien compris, le mercredi c'est en plein dans l'E3, donc c'est difficile de parler.
C'est un peu pas de bol, donc on va le décaler. Bah, hein.
Voilà, on a envie de revenir dessus.
C'est la flexibilité du web, on s'adapte.
Exactement, vous inquiétez pas, il arrivera probablement 24 heures après, donc probablement le jeudi. Mais ça, vous en saurez plus sur gameblog.fr. D'ici là, portez-vous bien et surtout, jouez bien. Gros bisous, ciao.
Bye bye.
Ciao.
Salut.
Cheers.